Tout d'abord, frères et sœurs, nous voulons vous saluer, où que vous vous trouviez. Les choses se passent différemment comme nous pouvons les attendre ou comme même nous pouvons les imaginer. Et on commence à s'habituer à certaines choses et puis tout à coup tout change à nouveau. Mais nous remercions le Seigneur quand même de pouvoir nous rassembler dans cette maison, dans sa maison et surtout autour de sa parole. Et nous sommes réconfortés par les paroles de notre Seigneur Jésus lorsqu'il a dit « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, alors je serai parmi eux. » Donc, nous sommes rassemblés là, ici, en petit nombre, dispersés sur différents endroits de la mission, mais nous sommes néanmoins reconnaissants, parce que en étant rassemblés de cette manière, nous pouvons louer et bénir son nom. Alors que le Seigneur puisse être avec vous, frères et sœurs, qu'il vous renforce, qu'il vous donne des forces, que ce soit ici en Afrique du Sud, dans les différentes provinces où vous êtes rassemblés, ou que vous soyez et vous trouviez à l'étranger, en Europe ou ailleurs, que le Seigneur soit avec vous. La parole de Dieu nous enseigne que nous ne devons pas mépriser la réunion des saints, la communion des saints. Et nous le réalisons parce que c'est en nous rassemblant que nous sommes encouragés, que nous sommes renforcés dans notre foi. Et la parole de Dieu nous enseigne également que là où sont rassemblés les saints, chacun apporte son don. Chacun apporte ce que Dieu lui a accordé, lui a donné, et tout cela sert à l'édification de l'Église. Que ce soit peut-être une prière, que ce soit un conseil, une instruction, un enseignement, quoi que ce soit. Alors que le Seigneur nous vienne en aide. Parce que sans lui, alors nous n'arriverons à rien. Mais comme aujourd'hui, ici en Afrique du Sud, c'est la fête des Pères. Alors nous voulons transmettre de meilleurs vœux à tous les pères, tous ceux qui écoutent, que le Seigneur nous aide à être de véritables pères, des pères divins. parce que de nos jours, aujourd'hui, nous avons des pères absents, même certains qui sont pourtant présents, mais qui sont absents parce qu'ils n'ont aucun impact dans leur famille, ils n'ont aucune influence dans leur famille. Mais notre prière est qu'en tant que Père, que le Seigneur Dieu nous aide à suivre l'exemple de notre Père dans la foi. Je suis la foi de nos patriarches, comme Abraham qui a obéi, qui a marché avec Dieu et qui par là est devenu Père de toutes les nations. Et nous voyons, nous réalisons comment ces hommes étaient droits, intègres, obéissants et fidèles. Et c'est pourquoi Dieu a pu les utiliser comme il l'a fait. Pourquoi Dieu était aussi proche d'eux comme il l'a été. Un homme devient un véritable homme, un vrai homme, par son obéissance à Dieu. Et aussi par son obéissance au responsable et au Père dans la foi. Et c'est ainsi qu'un homme devient un véritable homme. Alors que Dieu nous vienne en aide, à nous, Père, pour être des leaders dans nos familles, pour les diriger, pour les instruire dans les voies de Dieu, afin que les générations futures nous suivent et suivent l'exemple de comment suivre le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde aussi la sagesse, spécialement dans les temps dans lesquels nous vivons. Quand je parle de sagesse, je parle de la sagesse divine. Parce que il y a tant de soi-disant sagesse, de sagesse qui viennent du monde. Beaucoup pensent être sages, ils pensent savoir comment faire les choses, mais aux yeux de Dieu, ils sont bien ignorants. Certains pensent oui, il voit si bien, et pourtant Dieu nous dit dans sa parole que tu penses voir, mais pourtant tu es aveugle. Et même si tu es peut-être rejeté par le monde, peut-être tu es abandonné par ceux du monde, mais tant que Dieu a plaisir ou prends plaisir en toi, alors tout va bien. Qu'est-ce l'homme ? Tant que tu fais plaisir aux yeux de Dieu, alors tu fais partie de la majorité. Nous voulons prier ensemble. Notre Père Céleste, nous te remercions tellement pour cette journée, pour l'honneur, pour le privilège de pouvoir nous rassembler en ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, sois parmi nous. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous parler au travers de ta parole. Seigneur. Tu comprends, tu sais quels sont nos besoins. Et même en ce jour, même pour ce jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi, Seigneur, réponds à nos besoins et veuille venir auprès de nous, nous encourager, nous pousser à t'aimer encore plus. Seigneur, bien que nous nous sommes rassemblés qu'en petit nombre, Seigneur, que tu puisses être avec tous ceux qui se rassemblent en ton nom et que nous puissions expérimenter la chaleur de ta présence. Et tout cela, nous demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avons des frères et sœurs qui sont rassemblés dans différents endroits. Et peut-être certains ne peuvent même pas entendre ou écouter la parole de Dieu au moyen de la radio. Mais nous voudrions vous encourager, frères et sœurs, prenez soin, prenez garde de ne pas vous isoler dans votre coin. Parce que peut-être vous avez une semaine, deux semaines, et à aucun moment vous n'avez un rassemblement, vous pouvez prier ensemble, alors vous vous mettez en grand danger. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut s'encourager les uns les autres, on peut s'aider les uns les autres, particulièrement lorsqu'on est réunis, lorsqu'on est ensemble. C'est pourquoi il est bon de ne pas négliger le rassemblement des saints. Donc, bien que nous vivions dans des temps comme les nôtres, alors prends garde, fais attention de ne pas t'isoler, de te retrouver solitaire en étant satisfait de cet état solidaire. Mais fais un effort, reste en contact avec d'autres frères et sœurs et tu puisses ainsi donner des nouvelles. Et si tu es malade, alors ses frères et sœurs peuvent aussi prier les uns pour les autres, se visiter et ainsi s'encourager. Donc, prends garde ou fais attention de ne pas te satisfaire d'une vie spirituelle solitaire. Ce matin, le sujet sur lequel je voudrais parler, ce qui est sur mon cœur, est le sujet de avoir une vraie rencontre avec le Dieu vivant. Donc, avoir une véritable rencontre avec Dieu. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui se rassemblent. Beaucoup de croyants se trouve dans ce monde. Il y a beaucoup de croyants dans ce monde. Et même ici, en Afrique du Sud, beaucoup de la population se prétend ou s'identifie avec la foi chrétienne, s'identifie avec le christianisme. Si vous regardez les statistiques, plus de 80% des Sud-Africains s'identifient ou se reconnaissent comme étant chrétiens. Mais si vous examinez les personnes, si vous examinez leur vie, alors vous vous dites, mais cette statistique est un mensonge. Ce n'est pas possible que cette statistique puisse représenter la réalité. Si vous regardez les différents gouvernements du monde, si vous regardez les lois qui sont votées dans les différents pays du monde, en particulier dans les pays qui sont soi-disant chrétiens, alors on se pose la question, mais comment est-ce possible que, s'ils sont de véritables enfants de Dieu, comment est-ce possible que l'on puisse faire de telles choses, que l'on puisse voter de telles lois ? Que disent ces chrétiens ? Que font ces chrétiens qui sont dans cette soi-disant majorité quand le gouvernement vote des lois ? Et vous examinez ces lois et la Bible, la parole de Dieu, et vous réalisez que ces lois sont totalement contraires à la parole de Dieu. Alors on peut se poser la question, mais que fait cette majorité de personnes qui se prétendent chrétiennes ? Et qui pourtant ne font rien. Si vous regardez l'histoire de l'Église, au travers de toute l'histoire, au travers des âges, les véritables chrétiens, la véritable Église de Christ a toujours été persécutée d'une manière ou d'une autre. L'Église de Christ a été visée, ciblée, d'une manière ou d'une autre, tout au long de l'histoire. La foi chrétienne et le message de l'Évangile, de le christianisme, est là un message, est un message de libération. Non seulement message de libération où la personne peut témoigner, oui, j'ai été libéré du péché, j'ai été libéré du pouvoir et des chaînes du péché. Et la parole de Dieu nous dit que si le Fils de Dieu vous rend libre, il vous rendra réellement libre. Et c'est là le but que Christ avait quand il est venu dans ce monde afin de nous libérer des chaînes et de l'esclavage de Satan et du péché. Donc si dans la foi chrétienne nous parlons de cette liberté, alors ça doit être une expérience propre, ça doit être faire partie d'un témoignage de ce que Christ a fait dans nos vies. Lorsque nous pouvons témoigner de ce miracle, de cette douceur de vivre une vie libre et libérée du pouvoir du péché. Mais nous réalisons la stratégie du diable, comment il attaque l'Église. Que un tel état soit juste de l'histoire, que ce soit quelque chose dont on parle au passé et où plus personne ne peut témoigner de cette expérience d'une réelle rencontre avec Dieu. Donc, ne prenez pas quelque chose, ne pensez pas que ce soit quelque chose d'éloigné, de si éloigné. Peut-être c'est quelque chose qui peut arriver même dans ta propre maison. Peut-être vous pensez vivre pour le Seigneur, même dans ta famille, dans ta maison, et pourtant, cette vie est aussi éloignée. Ce que la parole de Dieu nous enseigne, aussi éloigné que l'Est l'est de l'Ouest. Donc ce doit être quelque chose où chacun puisse témoigner. Et ce doit être quelque chose que, alors que vous écoutez, vous puissiez dire, mais c'est quelque chose que j'ai aussi expérimenté. Je comprends, je vois tout à fait de quoi tu parles, parce que j'ai aussi expérimenté cette libération, cette emprise, cette absence d'emprise du péché et du diable dans ma vie. Donc nous devons faire attention, afin que personne ne devienne tiède, afin que personne ne vive plus cette expérience de l'action du Seigneur dans nos vies, et que on se tiédisse, on se refroidisse. Et même si nous ne pouvons pas nous rassembler, même si nous ne pouvons pas nous réunir et être proches les uns des autres, ce feu du Seigneur ne doit pas s'éteindre dans nos vies. C'est quelque chose sur lequel nous devons prendre garde, nous devons nourrir, nous devons faire attention à cette flamme, que où que nous nous trouvions, que cette flamme du Seigneur ne s'éteigne pas. C'est quelque chose que chacun, chacune doit prendre garde. Que nous fassions attention, que cette flamme brûle, que ce feu ne s'éteigne pas. Et que tu ne sois pas quelque chose que tu entends seulement parler. Ah oui, c'est quelque chose que d'autres expérimentent. Mais que nous puissions expérimenter nous-mêmes ce feu. Par exemple, si nous disons des choses avec notre bouche qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu, que cette flamme, que ce feu, alors, vienne purifier comme un charbon ardent notre bouche. Lorsque vous prenez votre Bible et que vous lisez cette parole et que cela ne veut rien dire pour vous, que cela n'a aucune influence, que vous n'êtes pas remuez cette parole, alors, de manière certaine, vous pouvez vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie spirituelle. Lorsque tu lis la parole de Dieu, et s'il y a quelque chose qui te sépare, quelque chose dans ta vie qui te sépare de Dieu, parce qu'il y a une une saleté, il y a des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, alors il faut que tu te poses la question. Comment est-ce que Dieu peut se glorifier dans ta vie? Comment est-ce que Dieu peut agir dans ta vie? C'est pourquoi il est important de vraiment expérimenter cette expérience de rencontre avec Dieu. C'est quelque chose que nous voulons examiner ce matin dans le livre des Actes, chapitre 9. Donc, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 1er. Donc, je lis dans la version du Semeur, chapitre 9 de Actes des Apôtres. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Verset 3. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? « Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. La voix reprit. Verset 5. « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. » Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Verset 7. Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Verset 9. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Nous lisons jusque-là, verset 9, de Actes 9, 1 à 9. Ce sujet de cette histoire nous remue le cœur avec ce sujet de cette rencontre avec Dieu. Et c'est étrange de voir comment différentes choses ont convergé pour cette histoire. Des choses qui sont pourtant opposées. Où l'un ne pouvait voir, et maintenant il pouvait voir. Et ainsi, on voit que comment Dieu, les voies de Dieu, la manière d'agir de Dieu est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pourrons jamais comprendre. Comment Dieu agit, cela reste un mystère. Dieu prend ce qui est opposé et il prend ces choses et utilise et fait en sorte que ces choses agissent pour accomplir sa volonté. Alors on peut se poser la question, « Oh Seigneur, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes que tu aurais pu utiliser pour que tu aies eu à utiliser Saul et à l'utiliser pour répandre si puissamment l'Évangile ?» On peut se poser cette question en disant, mais Seigneur, comment est-ce que les gens vont pouvoir écouter et vous pouvoir entendre le message de Saul, parce que c'est celui-là même qui persécutait les chrétiens, qui les mettait en prison, qui les faisait tuer. Comment est-ce que les gens vont pouvoir l'écouter et recevoir son message ? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir lui faire confiance? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir lui prendre attention, faire attention avec un tel homme? Mais voilà, les voix de Dieu, ce ne sont pas nos voix. Notre manière de faire ira toujours à l'encontre de ce que Dieu veut faire. Peut-être nous pouvons avoir nos murmures en disant « Mais comment, Seigneur, comment est-ce que tu peux utiliser un tel homme, un homme qui a une telle histoire, un tel arrière-plan ? Lui était comme ci et comme ça. » Et Dieu te répond « Ferme ta bouche parce que je sais ce que je fais. » Combien n'y a-t-il pas de personnes que tu ne veux pas écouter, que tu ne veux même pas entendre ce qu'ils ont à dire, parce que tu critiques, tu pointes du doigt des choses dans leur vie, et Dieu pourtant te dit « Ferme ta bouche, ferme ta bouche parce que je sais ce que je fais ». Et la manière dont Dieu voulait agir dans la vie de Saul, Dieu s'est dit, je ne vais pas utiliser quelconque autre personne, je veux être directement impliqué dans la vie de Saul. Je veux utiliser la vie de Saul. Dieu n'a pas utilisé, il n'a pas pris un autre disciple pour intervenir dans la vie de Saul. C'est Jésus lui-même, le Seigneur lui-même, est intervenu, est allé à la rencontre de Saul. Vous savez, le plus grand danger pour l'Église n'est pas les païens, ce n'est pas ceux qui sont en dehors de l'Église. Le plus grand danger de l'Église sont ceux qui sont assis au milieu de l'Église. Ce sont les frères et sœurs qui tournent le dos et qui sont capables de te poignarder dans le dos, qui sont capables de te crucifier. Et ce sont là ceux qui viennent et qui disent « Nous combattons pour la vérité, nous combattons pour Dieu. » Et pourtant, ils sont les plus grands ennemis de l'Évangile. Ici, nous voyons l'histoire de Saul, un homme très religieux, un homme connu et respecté dans la synagogue, dans les synagogues. Et il se met en opposition à ce message, à cette voix qui prend les juifs et les éloigne du judaïsme. Et alors, que fait-il ? Saul est très zélé pour combattre ce mouvement. Et il pense et il dit qu'il combat pour Dieu. Et c'est pourquoi Saul ou Paul a pu dire plus tard: je suis le plus grand pécheur parce que j'ai combattu l'Église. Et donc, il a réellement combattu, persécuté l'Église du Seigneur. Rappelez-vous, le premier martyr, Étienne, Saul était là, était présent lorsque Étienne a été lapidé et tué. Donc Saul était là dès le début pour combattre. Et lorsque les croyants étaient envoyés en prison, alors il était à la tête de ceux qui les envoyaient en prison. Il écrivait des lettres et il utilisait sa formation, son éducation pour combattre les chrétiens, pour les envoyer en prison. Et les faire tuer. Ainsi, Paul ou Saul était zélé pour le Seigneur, pour la loi. Il mettait tout en œuvre pour que les lois soient respectées et même jusqu'à aller auprès du grand prêtre pour lui demander des lettres de recommandation pour aller combattre les chrétiens à Damas. Il dit, ces lettres l'autorisaient s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, parce qu'ils étaient connus à l'époque comme étant les disciples ou les suiveur de la voie. Rappelez-vous, Jésus a dit lui-même: je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la voie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. En anglais, le chemin et voie, c'est la même chose, c'est le même mot. Donc ceux qui suivaient le Seigneur était connu pour étant les disciples de la voie, du chemin. Ainsi, si nous connaissons le Seigneur, alors il est notre chemin, notre vérité et notre vie. Et ainsi, Saul était zélé pour détourner les gens de cette voie de la vie et afin de les envoyer dans la voie de la mort. Pouvons-nous même imaginer qu'une telle personne soit zélée, consacre sa vie pour détourner et pour combattre des personnes qui ne suivent pas le même chemin qu'eux. Mais toi, vous qui écoutez, alors écoutez, ouvrez vos oreilles, ayez du discernement pour discerner quand une personne vient avec des belles paroles et qui pourtant sont là pour vous détourner de la voie du Seigneur et afin de vous emmener dans une voie de la perdition et de la mort. La Bible nous enseigne si il y a un don pour lequel nous devons prier, un don du Saint-Esprit, c'est le don du discernement. Si en tant que croyant, je n'ai pas de discernement, alors je serai facilement détourné pour finalement me retrouver au fin fond d'une forêt bien sombre. Combien n'y a-t-il pas de personnes aujourd'hui qui regrettent des décisions qu'ils ont prises, qui regrettent des directions prises dans leur vie? Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés à un croisement, ils se sont trompés, ils n'ont pas su discerner quelle est la voie, quel est le chemin de Christ, quel est le chemin que Christ a en réserve pour eux. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas, là où tu te trouves, es-tu capable de discerner? As-tu ce discernement? Combien n'y a-t-il pas de personnes qui t'ont détourné? Et peut-être tu t'es dit, « Ah, je suis encore sur le bon chemin, tout va bien. » Combien n'y a-t-il pas de personnes qui sont venues te voir pour te raconter des histoires, et peut-être as-tu avalé ces histoires, tu as cru à ces histoires. Et alors, tu as échoué simplement de dire à ces personnes, écoute, merci pour ce que tu m'as raconté, mais laisse-moi entendre l'autre version. Laisse-moi avoir une photo complète et d'écouter l'autre camp pour me faire une opinion et une idée sur tel ou tel sujet. Certains se présentent à toi et il te présente un filtre vert, des lunettes vertes, et alors tu vois tout en vert. Et un autre se présente avec un filtre rouge, et alors tu vois tout en rouge. Et peut-être le troisième vient avec un filtre tout noir, et alors tout paraît noir à tes yeux. Paul était occupé jour et nuit à détourner les gens de la voie, à détourner les gens de la lumière vers les ténèbres, parce que Saul n'avait pas lui-même encore expérimenté cette lumière. Il n'avait pas eu cette rencontre personnelle avec Dieu. Allez, toi, si tu es occupé à faire la même chose, si tu es occupé à influencer les autres, à les détourner du chemin, alors repens-toi, parce qu'un jour, tu devras te présenter devant Dieu, et alors tu porteras la responsabilité et tu auras le sang des âmes de ces personnes sur tes mains, et tu devras rendre compte à Dieu pour tes actes. Beaucoup se sont détournés de la foi. Beaucoup sont devenus amers parce que tu es venu, toi, avec ton amertume et tu leur as transmis ton poison. Et combien d'entre eux n'ont pas été influencés et empoisonnés par le poison de cette amertume que tu leur as transmis. Et Saul voulait faire les choses selon la loi. Ainsi, il est allé voir les grands prêtres pour demander ces lettres. Ces lettres qui lui donnaient l'autorisation d'aller voir les autorités religieuses de Damas et en ayant les pleins pouvoirs. Oui, bien que politiquement ils étaient sous la coupe de l'Empire romain, mais en ce qui concernait la religion, alors les règles ou le pouvoir était aux mains des autorités juives, du grand prêtre. Et c'est ainsi pourquoi Paul a pu se rendre vers le grand prêtre pour avoir ces lettres et cette autorité de leur part. Et ainsi, il y avait cette autorité religieuse qui avait ce pouvoir et cette autorité pour garder le peuple dans cette voie de juif, judaïsme. Et nous sommes dans ce même scénario encore aujourd'hui où vous avez des autorités qui ont ce pouvoir pour donner et dire comment vivre la foi. Et si vous n'êtes pas dans les clous de ce que eux attendent, alors malheur à toi. Donc Paul, ou Saul, a reçu ces lettres qui lui ont donné l'autorité pour aller à Damas et pour faire arrêter ceux qui croyaient en Christ, ces Juifs, mais qui croyaient en Jésus. Et ainsi, il avait le pouvoir, il avait reçu le pouvoir pour arrêter ceux qui suivaient la voie du Seigneur. Et ainsi, Saul a dû faire un long chemin, environ 130 000 de Jérusalem à Damas. Et Saul était accompagné Et il est dit qu'il respirait la menace et le meurtre. Mais je ne sais pas comment ils avançaient. Je ne sais pas s'ils chantaient des slogans en chemin ou... En tout cas, ils étaient déterminés pour arrêter les croyants et les forcer à abandonner leur foi, les forcer à faire, à retourner dans la tradition, à retourner dans la manière de la tradition juive. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, on nous dit qu'aucune religion ne doit piétiner les autres religions. Aucune religion ne doit critiquer ou parler mal des autres religions parce que toutes les religions sont égales. Et même aujourd'hui, quand on parle d'orientation sexuelle, on a amené aussi à ce même niveau. Il ne faut pas parler mauvais, de mauvaise manière. Si l'un veut être lesbien, ou l'une veut être lesbienne, ou l'autre veut être gay, il ne faut pas critiquer ce genre de décision. Voilà ce qu'aujourd'hui on veut imposer. Tout le monde a le droit de déterminer son genre et sans prendre en compte la manière dont on a été créé. Mais si tu n'es pas d'accord, alors voyez dans quelle direction nous allons. Et ainsi, Saul, avec ses lettres d'autorité et avec son entourage, avec son escorte, se sont rendus à Damas. Et il est dit dans le verset qu'il s'approchait déjà de Damas lorsque Dieu est intervenu. Il est dit, verset 3, alors qu'il s'approchait de la ville, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Donc, il est dit, une lumière éclatante qui a frappé Saul au point qu'il est tombé par terre. Alors, quand j'ai regardé, j'ai réfléchi à cette lumière, je me suis dit, il ne peut y avoir aucun autre homme aussi, ou aucun pouvoir aussi génial, on pourrait dire, que Dieu avec cette lumière. Parce que Dieu contrôle même la lumière. Qu'il a pu utiliser cette lumière pour frapper Saul sans pour autant le tuer. Et nous voyons que cette lumière a frappé Saul seulement. C'est lui qui a vu ces choses. Et Dieu s'est dit, personne ne peut amener au bon sens ce Saul, alors je vais m'occuper moi-même de lui. Et Dieu a alors utilisé une lumière éclatante pour le frapper, afin qu'il réalise que ce n'était pas l'action d'un homme, une action humaine, mais que cela provenait de Dieu lui-même. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire ? lorsque nous disons avoir une rencontre avec Dieu, avoir une rencontre avec Jésus. Comment est-ce que tu réalises cela? Comment est-ce qu'on peut réaliser lorsque une personne a eu une réelle rencontre avec Dieu? Nous le voyons là, dans cette histoire. Quand cela arrive, lorsque tu as une réelle rencontre avec Dieu, alors toute ta connaissance, tout ce que tu savais, tout ce que les pouvoirs que tu avais, toute ta suffisance arrive à une fin et tu réalises qui est Dieu. Et quand cela t'arrive, alors tu arrives au point où tu te dis, où tu dis, Seigneur, je pensais te connaître, je pensais croire en toi, mais maintenant je réalise que je ne te connaissais pas. Et Seigneur, si tu n'as pas pitié de moi, alors c'est ma fin. Seigneur, je suis arrivé au bout de moi-même. Je ne sais pas comment continuer, mais je ne suis qu'une boue, que de la boue. Et à moins que tu ne fasses grâce, alors il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur pour moi. Frères et sœurs, je crois. Si tu te les relèves de cette expérience, de cette réalisation, alors tu te relèves comme une autre personne. Tu deviens alors une personne que Dieu peut utiliser. Nous avons besoin de la lumière de Dieu, qu'elle pénètre jusqu'au tréfonds de notre cœur. Cette lumière éclatante qui frappe la personne et qui la met à terre. Où tu arrives au point de dire, c'est ma fin, je suis au bout de moi-même, je suis... Tu arrives au point où tu dis, « Oh Seigneur, je suis sans puissance, je suis si faible, je suis comme un ver, je ne suis rien. » C'est pourquoi Paul, après, a pu dire, « Je ne vis plus. » Mais c'est Christ qui vit en moi. Ce qui était mon passé, ce qui faisait ma vie, est arrivé à sa fin. Cette vie est arrivée à une fin. Ce qui faisait toute ma vie est arrivé à une fin. Tout ce que j'aimais, je ne l'aime plus. Tout ce que j'aspirais, tout ce qui je désirais, ne plus un désir aujourd'hui. Cela a perdu son attrait. Mais une chose que j'ai dit, Seigneur, c'est d'être avec toi, de vivre avec toi, de te connaître. Et tu arrives à ce point où tu expérimentes la puissance de Dieu. Lorsque tu rencontres cette puissance et tu arrives au point de dire « Seigneur, commence quelque chose de nouveau dans ma vie. Je veux te servir, je veux faire ce que tu me demandes et t'obéir. » Alors, frères et sœurs, lorsque nous arrivons à ce point, alors la question se pose, et tu as déjà arrivé à ce point? Es-tu déjà arrivé au point où ta manière de penser, tes voix, ta pensée arrive au bout, arrive à une fin, et où tu commences à dire « Seigneur, prends ma main, conduis-moi, guide-moi, et que je puisse faire ta volonté, parce que désormais, à partir de maintenant, je veux faire ta volonté, je veux suivre ta voix. » Et Seigneur, à partir de maintenant, je veux vivre ce que tu veux, de me soumettre à ta volonté. D'être enseigné, ce que cela veut dire d'être dirigé par le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire que de te suivre, Seigneur ? Peut-être ta volonté est encore bien vivante, ta manière de voir, ta manière de penser, ta manière de faire. Peut-être toi, épouse, tu as toujours le dernier mot. Peut-être toi, mari, tu ne fais pas la bonne chose. La parole de Dieu nous enseigne. Nous devons arriver à ce point où nous arrivons à être. Comme le dit la parole, nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses du passé sont passées. Désormais, toutes choses sont nouvelles. Il y a un chant qui dit « Il n'y a pas de chemin qui mène là où toi tu veux aller. » Mais le chemin qui mène au ciel ne mènera pas là où toi tu veux aller. Ce chemin vers le ciel a un coût. Il te coûte tout. Cela ne coûte pas seulement quelque chose, un petit peu. Non, c'est un chemin qui coûte tout. Il coûte que tu ne deviennes rien. Ah, devenir rien, c'est voilà bien la dernière chose que beaucoup ne veulent pas. Les personnes veulent être reconnues, veulent être louées pour leur CV, pour leur accomplissement. Mais si tu veux ce chemin, alors il te faut arriver à rien. Le Seigneur veut agir par nos vies, si nous savons ce que cela veut dire que nous soumettre. Nous soumettre sous la main puissante de Dieu. De confesser en disant « Seigneur, tu es mon Dieu, tu es ma vie, tu es mon Seigneur. » Alors, jeunes gens, où êtes-vous aujourd'hui? Que faites-vous? Avec quoi êtes-vous occupés? Avec quoi vous occupez-vous? Qui est-ce que vous écoutez? Combien, quelle importance a la parole de Dieu dans vos vies? Quelle importance a le Seigneur Jésus dans vos vies? Est-ce que vous savez ce que cela veut dire, vous soumettre? Est-ce que vous savez ce que cela veut dire, la volonté de Dieu? Peut-être à la maison, tu poses des problèmes. Peut-être autour de la table, tu es toujours celui à qui on doit faire des réprimandes. Mais peut-être autour de la table, tu n'arrives même pas à te contrôler. Tu veux ceci, tu veux cela. Et les autres doivent te servir, pour te donner ce que tu veux. Alors, comment est-ce que tu peux te soumettre à la volonté de Dieu si tu n'es même pas capable de te soumettre à la volonté de tes propres parents? Alors, si tu n'as pas été confronté à cette voie, alors, si tu n'as jamais rencontré le Seigneur, comment est-ce que tu peux marcher sur cette voie? Si tu n'as même pas vu cette voie, alors comment est-ce qu'on peut attendre que tu puisses y marcher? Quand Saul est tombé à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Peut-être, toi, tu vois une personne devant toi et tu dis « Non, je me bats avec cette personne, je combats. » Et sans réaliser que tu es en train de combattre contre Dieu. Et peut-être pour couronner le tout, tu combats cette personne et tu penses qu'en combattant telle ou telle personne, tu le fais pour la bonne cause, tu le fais pour Dieu. La Bible nous dit, les compagnons de voyage étaient pleins de stupeur parce qu'ils entendaient la voix mais ne voyaient personne. Même ceux qui accompagnaient Saul ont réalisé que quelque chose d'extraordinaire se passait, quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu encore. Et je pense que encore longtemps après cette expérience, ils ont dû parler entre eux de cette expérience, de ce qu'ils ont vécu avec Saul sur ce chemin de Damas. Il est dit qu'ils ont entendu la voix, mais ils ne voyaient personne. Et Dieu a dit quelque chose qui avait un sens quand il a dit « Pourquoi me persécutes-tu ? » Peut-être tu combats et tu penses que tu combats un homme, une personne, et tu ne réalises pas que tu es en train de combattre contre Dieu lui-même. Peut-être tu dis, je vais donner une bonne leçon à cette personne et ils vont réaliser qui je suis vraiment. Je vais leur donner une bonne leçon. Et peut-être Dieu te dit, tu combats cette personne, mais en fait, tu me combats moi. Et alors, Saul a répondu, qui es-tu, Seigneur ? Et alors, la voix reprit, je suis moi, Jésus. Est-ce que vous comprenez avec qui tu combats ? Est-ce que tu comprends qui, avec qui tu t'opposes ? Peut-être chaque jour tu es occupé à cela. Chaque jour de ta vie, tu es préoccupé. Peut-être même qui t'accompagne, certains t'accompagnent. Et tu es occupé chaque jour, jour après jour, à combattre le Seigneur. Tu dis, je fais cela, j'ai l'autorité, j'ai même les lettres officielles, légales, je fais la bonne chose, et pourtant tu combats contre Dieu. Et je suis émerveillé à l'action de Dieu ici. Nous voyons Saul en chemin pour Damas avec fureur pour faire ce que lui voulait. Et alors Jésus intervient. Et que se passe-t-il ? Saul devient alors inoffensif. Il est aveugle. Et Dieu le conduit. Le Seigneur le conduit à Damas et il est même dit qu'il fallut le prendre par la main. Et peut-être Saul serait arrivé à Damas et il y aurait eu une cérémonie d'accueil. Accueilli comme un héros, voilà Saul, le grand Saul, celui qui a été enseigné par Gamaliel, nous te souhaitons la bienvenue. Et comment ce Saul, l'éduquer, a été humilié parce qu'il a dû être pris par la main comme une personne inoffensive sans savoir où il allait, n'étant plus en contrôle de sa situation. Et alors il a été emmené à Damas. Et ainsi Dieu lui dit... C'est intéressant de voir, il est dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Tu iras à Damas. Mais Saul est rentré à Damas en étant humilié. Sûrement que certains se sont posé la question en disant, est-ce là le fameux Saul ? Est-ce bien lui ? Et là, au même endroit où il pensait devenir encore plus renommé et fameux, c'est là que Jésus l'a rencontré. C'est là que Dieu a choisi cet endroit que Dieu a choisi pour commencer une nouvelle étape dans la vie de Saul. Ce qui est important, ce que nous devons apprendre, là où Dieu agit, ne te mets pas en travers de son chemin. Ne viens pas avec tes idées préconçues, ne viens pas avec ton avis, avec tes idées. Lorsque Dieu agit, libère la voie, ne te mets pas en travers de son chemin. Ne viens pas avec tes propres idées. Ne viens pas avec ton intelligence. Libère la voie et laisse le Seigneur agir comme il veut. Et aie cette attitude de dire, Seigneur, agis comme toi tu le veux et que je ne sois pas en travers de ton chemin. Seigneur, je suis prêt à faire ce que tu me demandes. Tu d'aller là où tu m'envoie, non pas à la manière que moi je vois les choses, mais selon ta voix. Et Dieu, dans sa sagesse, avait déjà préparé un chemin pour Saul. Le Seigneur avait déjà parlé à Ananias et il lui avait donné l'instruction, il lui a même donné l'adresse en disant « Voilà la maison de Judas et va voir Saul et va prier pour lui. » Et ainsi Dieu a parlé à Ananias. Dieu a parlé à Paul, à Saul, qui est devenu Paul. Et ce qu'il a dit à l'un et à l'autre était en agrément, était en similaire. Et c'est ainsi comment Dieu agit. Peut-être des choses qui te semblent si éloignées l'une de l'autre, et pourtant Dieu les unit, et Dieu joint peut-être des choses qui te semblent si éloignées. Et alors, Ananias, quand il est venu, il a dit qu'il imposa les mains à Saul et lui dit, il a prié. Il est dit que les yeux de Saul furent à nouveau ouverts. Donc les yeux de Saul qui ne voyait plus. Nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux spirituels. Nous avons besoin d'une révélation de la part de Dieu, que ces écailles puissent tomber de nos yeux, afin que nous puissions voir les choses comme Dieu les voit. Et les yeux de Saul ont été ouverts. Et c'est à ce moment-là que la vie de Paul a commencé. Les choses ont complètement changé. Dieu avait parlé. Et il a même dit, voilà celui que j'ai choisi, voilà le vase que je veux utiliser. Quel que soit tout le mal, toute la méchanceté qu'il avait répandue, Dieu a choisi. Et il a dit, il est l'instrument que j'ai choisi pour annoncer l'évangile aux nations. Peut-être tu es toi-même un grand ennemi de Dieu, de l'œuvre de Dieu, et tu ne réalises même pas qu'en même temps, Dieu veut t'utiliser, veut agir par ton intermédiaire. Mais quand Dieu commence à agir, alors cela ne doit pas être une excuse pour être orgueilleux et être fier. Tu n'es qu'un vase, qu'un récipient dans lequel Dieu peut mettre son trésor. Tu peux avoir un vase important, si beau, peut-être doré, et tu peux avoir la plus belle, les plus beaux ustensiles, les plus beaux récipients dans ta maison, peut-être même en or, mais cela ne te nourrira pas. C'est la nourriture que tu vas mettre dedans qui est importante. Et ainsi, Paul a été choisi par le Seigneur. Pourtant, il n'en était pas conscient auparavant. Et alors, Paul a ensuite prêché un autre évangile, un autre message. Il a prêché l'évangile de Jésus-Christ et il a mené alors les gens dans la voie du Seigneur, alors qu'auparavant, il les détournait de cette voie. Il a été totalement transformé. Même son nom est passé de Saul à Paul. Et alors, il a commencé à détourner les gens de la voie de la perdition et les a amenés dans la voie du Seigneur. Il leur a montré la voix du Seigneur. Et au départ, les gens avaient peur de lui. Ils se sont dit, peut-être, il essaye de nous ruser. C'est un moyen de nous arrêter, de nous dénoncer. Mais le Seigneur l'a utilisé. Ainsi, Dieu veut agir, veut utiliser des personnes, veut utiliser des personnes pour faire son œuvre, peut-être même sans que les autres le réalisent. Alors, va vers Damas. Et on te dira ce que tu dois faire, et le Seigneur te montrera, t'enseignera le chemin qu'il veut que tu prennes. Alors, laisse tes voies et amène les autres vers la voie du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut faire de ta vie. Et Paul a été totalement transformé. Il n'avait plus cette volonté de détourner les gens de la voie du Seigneur, mais désormais, il était au contraire zélé pour les diriger vers la voie du Seigneur et les détourner de la voie de la perdition. Mais avant de pouvoir faire cela, avant qu'il ne puisse être utilisé, par le Seigneur. Dieu a dû agir de manière sévère dans sa vie. Dieu a dû faire en sorte que Saul devienne Paul. Dieu ne peut pas agir au travers de quelqu'un qui garde le péché dans son cœur, dans sa vie. Dieu ne peut pas agir au travers de quelqu'un qui garde le péché dans sa vie. Il nous faut mettre fin à l'homme ancien. Nous devons revêtir l'homme nouveau, celui qui est fait à l'image de Dieu, afin que nous puissions suivre ses voies, suivre le chemin de Christ. Et cela nous coûte. Cela coûte d'obéir à Dieu. Alors la question se pose, as-tu cette oreille pour obéir? As-tu cette oreille pour entendre ce que Dieu te dit? Et cela nous coûte de faire la volonté de Dieu et de ne plus faire notre volonté. L'orgueil, ceux qui se mettent sur un piédestal, qui se mettent sur des positions élevées, cela doit avoir une fin. Alors, Dieu a pu commencer à agir au travers de cet homme. Et beaucoup, les multitudes, ont été amenées à Christ. Et celui qui persécutait l'Église est devenu alors un prédicateur de l'Évangile. Et une véritable conversion, une véritable repentance était manifeste dans la vie de cet homme. Les fruits de la repentance ont été visibles. Et c'est le cas. S'il y a une vraie repentance, alors cela se voit. Il n'était plus ennemi de l'Évangile. Il était au contraire zélé pour répandre l'Évangile. Bien qu'il était celui, leader, dirigeant, chef pour persécuter l'Église, alors Dieu l'a choisi pour son royaume. Alors la question se pose, où es-tu? Continues-tu à marcher selon tes voies? Continue à faire ta volonté? Est-ce que le Seigneur peut t'utiliser et te choisir?
Uchesu ya gubiza mahanje, uchesu ya gubiza, uchesu ya gubiza, uchesu ya gubiza, uya gubiza, uchesu ya gubiza. Uyo shale zonweni, uyo shale zonweni, guze gubeni. Uchesu ya gubiza, uyo shale zonweni, uyo shale zonweni, guze gubeni. Uchesu ya gubiza, usese tuze, uchesu sese tu. Usese tuze, uchesu sese tuze. Uchesu sese tuze, uchesu sese tuze, usese tuze, uchesu sese tu. Uyo shale zonweni, uyo shale zonweni, guze gubeni, uchesu sese tuze. Uyohlale zonweni, uyohlale zonweni, kuze kube nini, uJesu seseduze.
Shall we pray?
Nous voulons prier. Seigneur, tes voix ne sont pas nos voix. Nous avons entendu comment tu as œuvré d'une manière extraordinaire dans la vie de Saul. Seigneur, aujourd'hui, tu n'es pas différent. Tu es encore aujourd'hui ce même Dieu. Et Seigneur, oui, Paul a été l'instrument que tu as choisi. Mais tu veux aussi nous utiliser, nous, comme tes instruments, comme tes vases utiles. Seigneur, tu veux agir dans notre temps afin de glorifier, d'exalter ton nom. Ta puissance n'est pas moindre, n'a pas diminué par rapport à ces temps, à ces temps-là. Le Saint-Esprit n'a pas vieilli, n'est pas sans puissance dans notre temps, dans notre époque. Seigneur, comme tu as œuvré à cette époque, tu veux encore aujourd'hui œuvrer. Seigneur, nous comprenons que ceux qui veulent vivre une vie en ayant crainte de toi, que de telles personnes seront persécutées. Et encore aujourd'hui, qui, comme Saul à l'époque, pense te rendre service en combattant l'Église. Et Seigneur, nous te prions que tu puisses avoir pitié d'eux comme tu as eu pitié de Saul. Et même Seigneur, s'il continue avec cette persécution, que cela ne nous empêche pas, ne nous arrête pas de continuer à te servir. Seigneur, la souffrance que nous endurons n'a aucune comparaison avec la gloire que nous expérimenterons lorsque nous te rencontrerons face à face. Mais Seigneur, nous te prions, agis dans nos vies. Nous avons entendu ce que cela veut dire que d'avoir une véritable rencontre avec toi. Lorsque Saul est devenu Paul, et ainsi il n'a été plus jamais le même. Mais sa vie a été totalement transformée, remplie du Saint-Esprit, au travers de qui tu as pu agir et glorifier ton nom. Seigneur, lorsque nous examinons nos vies, nous réalisons combien nous avons si peu de cela. C'est pourquoi nous te prions par ta grâce que nous ne nous tenions pas, nous ne soyons pas en travers de ton chemin. Que en ce temps qui est le nôtre, où nous ne rations pas ce que tu as en réserve pour nous, que nous ne soyons pas occupés avec des choses inutiles, éphémères, alors qu'il y a des enjeux éternels. Pourquoi aide-nous, Seigneur, que nous puissions avoir à nouveau une rencontre vivante, fraîche avec toi. Nouvelle rencontre afin que nous expérimentions ta puissance à l'œuvre dans nos vies. Que les écailles puissent tomber de nos yeux. Que nous puissions voir les choses, les événements comme toi, tu les vois. Et que nous soyons alors prêts à être envoyés par toi. Que nous puissions répondre, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, en ce jour, lorsque cette lumière éclatante a resplendi et a frappé Saul, il n'a été plus jamais le même homme. Et que cette réunion, que la parole que nous avons entendue aujourd'hui puisse être comme cette lumière. Que nous, lorsque nous sortons de cette réunion, nos vies ne soient plus jamais les mêmes. À cause de ton nom. Amen.